Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Et bienvenue dans Aura des pâquerettes. Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous mensuel proposé par les radios réunies au sein de la fédération Aura FM.
Oui, bonjour à tous les auditeurs et auditrices des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes. Jessica, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'Aura FM ?
Donc Aura FM, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, 39 radios associatives, 3325 bénévoles, 253 salariés dont nous faisons partie, 108 000 invités par an, 22 heures de production par jour, 2000 à 4500 heures de direct. Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est chaque mois une émission de 55 minutes préparée par une des 39 radios associatives de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce mois-ci, c'est Globule Radio, radio de la vallée de Chamonix qui s'y colle. Ce programme mutualisé, c'est une invitation destinée aux auditeurs de ces différentes antennes à découvrir les initiatives locales et les acteurs des territoires de notre région. Des invités, des discussions et des découvertes diffusées sur les radios associatives d'Aura FM. Nous avons décidé pour cette émission de parler d'un des impacts du réchauffement climatique sur notre territoire, les éboulements, les écroulements rocheux. La totalité des experts du climat s'accordent sur le fait que les changements climatiques observés ces dernières décennies vont se poursuivre, voire s'intensifier au cours des prochaines années. Les Alpes se réchauffent encore plus vite que les océans. Quand on parle de Chamonix, on pense haute montagne, on pense Mont Blanc, neige, et dès qu'on parle de changement climatique, on pense très souvent fonte des glaciers. Ce n'est pas le seul impact sur notre territoire et on va en parler dans quelques instants avec Ludovic Ravanel, géomorphologue, Olivier Gréber, président de la Compagnie des Guides et Jean-Franck Charlet, cristallier. C'est parti pour une émission enregistrée fin novembre 2024 à Chamonix dans les studios de Globule Radio. Donc quelques mots sur Globule Radio, radio associative de la vallée de Chamonix qui a obtenu en 2017 la fréquence 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Nous animons l'antenne 24 heures sur 24 depuis cette autorisation officielle. Nous produisons de nombreux podcasts et nous sommes aussi investis dans les collèges du département de la Haute-Savoie avec des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Je suis Jessica Compois, directrice éditoriale de Globule Radio et je suis en compagnie de Lorraine Roche, journaliste. Salut Lorraine.
Salut Jessica.
Ça va ?
Ça va super.
Et de Kirstine McKenzie, responsable de production. Ça va Kirstine ? Tu es à la technique aujourd'hui ? Donc afin de rentrer dans le vif du sujet et de discuter avec nos invités du jour, donc Ludovic Ravanel et Olivier Gréber, on écoute tout de suite le son impressionnant d'une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux. C'est le son de blocs de pierre de plusieurs tonnes qui dévalent une montagne pour s'écraser et exploser quelques centaines de mètres plus bas. Les images impressionnantes ont été filmées mardi 10 septembre cette année depuis le vallon de Bérard au-dessus de Valorcine par Stéphane Oerner. L'éboulement massif est survenu dans le massif du Mont-Blanc au col de l'Encrenat à 2700 mètres d'altitude. 30 à 40 000 mètres cubes de roches sont tombés ce jour-là, un phénomène exceptionnel par son ampleur et sa localisation dans un secteur peu propice à de tels éboulements. Alors, heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Est-ce que l'un de vous deux, Olivier ou Ludovic, peut réagir à cette écoute un peu ?
C'est certain que cet événement fait réagir dans le sens où, premièrement, c'est un massif qui est quand même très peu affecté par ce type d'événement. On n'est pas tout à fait dans le massif du Mont-Blanc, on est dans le massif des Aiguilles Rouges, à des altitudes où on n'était pas certain qu'il y ait effectivement présence de ce qu'on appelle le permafrost, ces terrains gelés en permanence. Et pourtant, cet événement, effectivement, du point de vue son volume, est très important. C'est pas 30 000 mètres cubes. 30 000 mètres cubes, c'est un ensemble qui est tombé en fait en deux fois. Et au mois de septembre cette année, c'est seulement 16 000 mètres cubes, mais c'est quand même déjà impressionnant. Et compte tenu de la pente ensuite, c'est vrai que ça a donné lieu ce qu'on appelle une trajectographie, une trajectoire très particulière, avec des blocs de plusieurs tonnes qui ont pu faire 200 mètres de vol plané. C'est très, très impressionnant. Et en étudiant plus précisément ce qu'on appelle la cicatrice, c'est-à-dire la zone de départ de l'écroulement, on a observé de la glace témoignant que dans ce secteur-là du massif des Aiguilles Rouges, on a encore du permafrost. Et vraisemblablement, c'est sa dégradation, son réchauffement qui a modifié la glace présente dans la fracture et donc conduit à l'événement.
Donc je viens d'apprendre quelque chose, bonjour à toutes, bonjour à tous, d'apprendre qu'effectivement il y avait encore des zones dans les Aiguilles Rouges où il reste du permafrost. Je pensais plus au col de Bérard, mais le glacier du Mort, là, mais finalement il y a d'autres zones.
C'est vrai qu'on a encore un petit englacement, on a encore 8-10 petits glaciers qui sont situés très bas en altitude, donc qui ne devraient pas exister, et s'ils existent encore c'est grâce à l'orientation au nord et grâce à la suralimentation l'hiver par les avalanches. Et on a encore un petit peu de permafrost, on le savait parce qu'on a modélisé, on a déjà mesuré certains secteurs. Par contre, dans ce cas-là, j'étais de prime abord pas forcément sûr qu'il s'agissait d'un effet de la dégradation du permafrost, et si.
Merci beaucoup pour ces réactions. Ludovic Ravanel, on vient de t'entendre, tu es géomorphologue, directeur de recherche au CNRS, accompagnateur en montagne. La montagne, je la connais depuis petit. Ravanel dans la vallée, c'est un nom qui nous évoque tout de suite l'histoire de l'alpinisme, intimement lié à la compagnie des guides. Toi, tu as choisi la voie de la science, et justement, tu mènes un travail sur les éboulements en montagne dus à la dégradation du permafrost. Ma première question, c'est comment tu t'es intéressé au sujet ? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de ces recherches ?
Alors c'est vrai qu'avec un patronyme pareil, on a du mal à se détacher véritablement de la montagne. Je me souviens très bien, petit, aller chercher mon père au pied du glacier des Bossons où il accompagnait ses clients. Ce patronyme, il était déjà là à la naissance de Chamonix en 1091. Et un historien qui a fait un travail sur la famille a montré qu'il y avait déjà des Ravanel avant l'implantation de Chamonix. Donc c'est vrai qu'il y a un lien fort avec la montagne. J'ai toujours été intéressé sous diverses formes, les oiseaux, l'histoire, la géologie, les glaciers. Quand j'étais au collège, je faisais beaucoup de stages à la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Ça a été un moment important pour moi. Et puis ensuite, j'ai beaucoup fréquenté la montagne, mais pour des raisons sportives. J'étais passionné d'escalade, passionné de cascades de glace, et puis passionné de montagne. Jeune chamonnière, c'est difficile de ne pas regarder vers les hautes altitudes. Et puis, justement, pour répondre à ce besoin d'altitude, en dehors de fréquenter la haute montagne, je voulais avoir une approche scientifique, ce qui m'a conduit à démarrer des études, d'abord en géologie, puis en géographie physique. Et comme ça se passait très, très bien, ensuite, après le master, j'ai fait une thèse qui a été soutenue en 2010. Et puis ensuite, malheureusement, avec une thèse, on n'a pas de travail. Donc, il faut aller voir un petit peu à l'étranger, ce qui m'a permis de faire un post-doc à l'Université de Savoie de Mont-Blanc. D'abord, ce n'est pas à l'étranger, mais ensuite, je suis parti à l'Université de Lausanne, à l'Université de Zurich, à l'École Polytechnique de Zurich. Je suis revenu à l'Université de Lausanne. Et puis après, pendant 2 ans, j'ai pris la direction de la Chamonix-Arts. C'était une association, le service de prévention et de secours en montagne de Chamonix, avant d'avoir envie de retourner à la recherche. Et c'est là que j'ai candidaté au CNRS. J'étais pas très serein parce qu'il y a quand même très peu de postes par rapport au nombre de motivés. Et puis finalement, ça a marché. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis dédié à la science et à une meilleure compréhension des milieux de haute montagne, en particulier face au réchauffement climatique.
Et justement, je vais revenir à ton parcours personnel parce que j'ai lu que tu as assisté toi-même à plusieurs éboulements. En 1998, le refuge décosmique est touché par une plaque de granit qui se détache. Et en 2003, tu assistes à un éboulement pendant cet été caniculaire. Et c'est des choses qui t'ont mis, toi, sur cette piste-là, cet intérêt d'aller chercher, d'aller comprendre ces phénomènes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a 3 moments très importants dans mon adolescence finalement. En 1998, j'étais aide-gardien du refuge des Cosmiques. C'est ma sœur qui en était la gardienne. C'est un refuge justement de la compagnie des guides de Chamonix. Le 22 août, on a senti le refuge vibrer en fin de journée. On imaginait une avalanche de glace au niveau du glacier des Bossons, dans la face nord du Mont Blanc du Tacul. Et le lendemain matin, en fait, on a observé qu'une partie du refuge pendouillait dans le vide, puisque une grande dalle de 600 mètres cubes s'était déstabilisée directement sous tout le refuge, nécessitant notre évacuation premièrement, et puis ensuite de gros travaux évidemment pour redonner une unité, une stabilité à l'ensemble, ce qui a été fait juste derrière. Mais c'est vrai que ça a été le premier moment fort finalement où on a pu ressentir l'évolution de la haute montagne. Deuxième épisode 2003, cette fois-ci j'étais pas aide-gardien mais gardien d'un autre refuge de la compagnie des guides qui s'appelle le refuge de la Charpoix. Tout petit refuge d'une douzaine de places au pied de l'Aiguille Verte. Et là, en 2003, je n'ai pas fait une très très bonne saison du point de vue économique. Il n'y avait pas grand monde en montagne puisque les conditions étaient devenues catastrophiques. Et c'est vrai que ça tombait de partout. En particulier, un matin, en me levant pour faire le réveil de 3 heures, je me souviens toute la face sud des Drues qui s'écroulait avec plein d'étincelles dans tous les sens. Et les alpinistes, je ne les ai pas réveillés. Et le matin, à 6-7 heures, ils n'étaient pas contents du tout parce que je ne les avais pas réveillés. Et je leur ai expliqué ensuite pourquoi ils n'avaient pas été réveillés. Ils ont très bien compris.
Tout remercier peut-être même.
Voilà, ça les a mis en sécurité. Et le troisième moment fort, c'est juin 2005. 800 000 tonnes de granit s'écroulent dans la face ouest des Drues. J'étais alors jeune étudiant et c'est finalement ce qui a, entre guillemets, consacré mon début de carrière scientifique à ces questions de permafrost et stabilité des terrains de haute montagne.
Et justement, tu mentionnais ta thèse que tu as soutenue en 2010, intitulée « Caractérisation, facteurs et dynamiques des écroulements rocheux dans les parois à permafrost du massif du Mont-Blanc ». Quel constat ça t'a permis de dresser cette thèse ?
Alors cette thèse, elle avait un double objectif. Il existait déjà une hypothèse qui datait des années 70, que l'on doit à l'équipe de Wilfried Eiberli à l'université de Zurich. Dans les années 70 déjà, on pensait qu'avec toutes les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait assister à un réchauffement climatique. C'était encore théorique, mais le milieu scientifique était quand même assez intéressé par les effets potentiels de ce réchauffement. Et donc, ce Wilfried Eiberli disait qu'effectivement, en cas de réchauffement climatique, compte tenu du fait que les terrains de haute montagne étaient gelés en permanence, affectés par le permafrost, il pourrait y avoir des déstabilisations. Cette hypothèse est restée en suspens pas mal de temps, puisque on n'avait pas de catalogue d'événements sur lesquels réfléchir. Il y avait quelques événements, effectivement, mais c'est difficile de réfléchir sur un événement unique. Donc, au cours de ma thèse, on a essayé déjà de reconstituer toute une série d'événements dans la face ouest des Drues, dans le versant nord des aiguilles de Chamonix, de manière à montrer la relation entre le réchauffement climatique, on peut même parler aujourd'hui de crise climatique, et la stabilité des parois rocheuses de haute montagne. Et effectivement, on a montré le lien direct entre les deux. Et la deuxième partie de l'hypothèse, la deuxième partie de mon travail, ça a été de montrer que, effectivement, si on avait un lien aussi étroit entre le climat et la stabilité des parois rocheuses de haute montagne, c'était en raison de la dégradation du permafrost, c'est-à-dire du réchauffement de ces terrains gelés en permanence.
Et justement, ces conséquences... Alors, petit point à définition, parce que depuis 5 minutes, on parle du permafrost. Permafrost, ça désigne les sols qui sont gelés depuis plus de 2 ans et donc qui restent sous le seuil de 0 degré. Si je ne me trompe pas.
Alors, il y a un équivalent français au terme permafrost, c'est pergélisol. Mais dans pergélisol, il y a sol. Or, le permafrost n'affecte pas que les sols. On peut avoir des moraines, on peut avoir des parois, on peut avoir des débris rocheux qui sont effectivement à des conditions de température inférieure ou égale à 0 degré. Alors, le minimum, c'est 2 ans, mais en général, le permafrost, c'est des héritages des dernières périodes glaciaires. Donc, ça peut être des terrains qui ont gelé au petit âge glaciaire, il y a plusieurs siècles, ou plusieurs millénaires, voire dizaines de millénaires, lors des grandes périodes glaciaires, quand les glaciers arrivaient jusqu'à Lyon, par exemple, dans nos régions.
Et quand on parle de la dégradation du permafrost, justement, tu le disais, ça impacte la montagne. Et comment, est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple comment ça va impliquer le fait que la montagne peut s'écrouler ?
Alors le permafrost, c'est un état thermique, ça ne se voit pas. Il faudrait avoir une caméra thermique à la place des yeux et je pense que personne n'en est doté. Donc il faut mesurer cette présence à travers la mise en place de capteurs de température. C'est des thermomètres qu'on va installer dans les milieux de haute montagne. Dans le massif du Mont-Blanc, on en a plusieurs dizaines qui nous permettent de savoir effectivement à tel endroit la température moyenne annuelle est de moins 2,3 degrés par exemple. Et donc en multipliant les sites, on arrive ensuite à distribuer ces températures, à cartographier ces températures pour savoir où il y a présence de permafrost et où il n'y a pas de permafrost. Et ce permafrost, à son tour, permet la présence de glace dans les fissures. Et c'est cette glace qui a un rôle de ciment. On parle de béton de glace, de ciment de glace. Et c'est vrai qu'en faisant fondre ce ciment des montagnes, eh bien, on les déstabilise. Cette dégradation, c'est-à-dire ce réchauffement, se fait soit par conduction de chaleur depuis la surface. L'été, il fait chaud, donc la chaleur, elle pénètre dans les terrains jusque très tardivement parfois. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, on a un réchauffement également beaucoup plus rapide lorsque l'eau circule dans les fractures. Ça, c'est ce qu'on appelle de la convection de chaleur. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la chute du pilier Bonatti en juin 2005. Ce n'est pas tellement les températures de l'été, puisque c'était en début d'été, mais c'est des orages très hauts en altitude, avec de la pluie très haut en altitude. Cette pluie, cette eau a pu rentrer dans les fractures jusqu'à dégrader la glace et donc faire bouger la montagne.
Alors, tu évoquais 2005. Aujourd'hui, on est en 2024. Le réchauffement climatique a pris de l'ampleur, puisqu'on n'a pas tous les relevés de température de l'année, mais visiblement, on est dans une année où on pourrait être à plus 1,5 degré. Quel constat, toi, tu dresses dans ton travail maintenant ?
Depuis qu'on s'intéresse à ces questions, on a eu, je dirais, trois coups d'accélérateur. Le premier, c'est 2003, on en parlait tout à l'heure. Les guides s'en souviennent, le président de la compagnie s'en souvient. Ensuite, 2015. 2015 a été quasiment au niveau de 2003. Et puis, depuis 2015, quasiment tous les étés sont caniculaires. Et puis, on a eu un troisième coup d'accélérateur, c'est la combinaison 2022-2023. Voilà, on a pété tous les records du point de vue de la fonte des glaciers. En deux ans, on a perdu 10,4% du volume total des glaciers alpins. C'est absolument monstrueux. Et en termes de déstabilisation rocheuse, 2022 reste dans le massif du Mont-Blanc comme l'année la plus importante, avec plus de 300 événements que l'on a recensés dans le massif du Mont-Blanc à travers un réseau d'observations constitué de guides, de gardiens de refuge, etc. Et puis on assiste, à côté de l'augmentation de la fréquence de ces événements, à une augmentation des volumes, avec parfois des volumes de plus d'un million, 2 millions, 3 millions de mètres cubes. Et dans les Alpes françaises, le 17 novembre dernier, c'est-à-dire très récemment, on a eu le plus gros événement du côté du Mont Pourri, dans le massif de la Vanoise. Entre 700 et 800 000 mètres cubes de roches sont tombés. Ça a fait une avalanche rocheuse d'un kilomètre et demi. Heureusement, la topographie, une partie relativement plane, a permis l'arrêt de l'avalanche, sans quoi on peut imaginer que ces volumes aillent beaucoup plus loin. Et c'est ça justement qu'on essaye de comprendre pour anticiper ce type de phénomène et mieux les gérer du point de vue de la sécurité.
Justement, tu cites cette augmentation de ces phénomènes et de l'observation qu'on peut en faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une manière de prévoir que ça peut arriver ? Ou c'est juste dire, cette zone-là, on pense que ça peut être dangereux, donc n'y allez pas.
Alors, il y a deux choses dans cette question. Premièrement, par toutes les données dont on dispose depuis maintenant deux décennies, on est en capacité de dire telle tranche altitudinale, telle orientation de parois, c'est des endroits particulièrement favorables aux déstabilisations. Mais c'est difficile de dire encore là où ça va tomber et surtout à quel moment. On sait quels sont les contextes géologiques, topographiques les plus favorables aux déstabilisations, mais savoir quand ça va tomber, ça c'est très difficile. Par contre, et c'est là l'importance du lien avec notamment les guides de haute montagne, c'est qu'ils ont une observation fine de ces terrains. Et lorsque on a une fréquence anormale de chute de pierre, ça peut nous faire dire « Ah, là, il peut y avoir quelque chose ». Et c'est pour ça que les guides sont d'excellents observateurs qui ont une importance en termes de gestion des risques. Parce que c'est certainement eux. Moi, avec mes deux yeux, je ne peux pas être partout. J'ai quelques collègues, mais encore une fois, on ne peut pas être partout. Donc, c'est certainement les guides, les accompagnateurs qui, à l'avenir, nous diront « Tiens, j'ai observé ceci, cela ». Et ça va nous mettre un petit peu la puce à l'oreille et on pourra ensuite mettre la paroi sous surveillance. On ne peut pas surveiller l'ensemble des Alpes françaises. Par contre, quand on a un doute, on a des méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'instrumenter, de mettre en place une surveillance permettant de voir comment la montagne évolue, éventuellement aller jusqu'à évacuer des secteurs, ce qui a déjà été fait en Suisse et ça a bien marché et c'était important de le faire puisque je pense notamment à un événement en 2017 où une partie d'un village a été détruit.
Justement, pour appuyer sur ce réseau d'observateurs des écroulements, il me semble que ça s'appelle comme ça. Peut-être que, Olivier, tu peux aussi compléter dans cette mise en lien que vous faites, parce que ça concerne les guides, les gardiens de refuge et les alpinistes.
Effectivement, Ludo nous en a déjà été très complet sur le sujet, hein, mais que les guides, on peut dire, sont un peu les yeux, les oreilles des scientifiques. Les guides passent souvent plus d'une centaine de journées en montagne. Et à ce titre-là, ils ont effectivement une vision sur la durée et sur l'évolution des conditions sur une saison, puisqu'il nous arrive de pratiquer une course plusieurs fois dans la saison, et entre le début de saison, le milieu de saison et fin de saison, on se dit, tiens, là, il y a quand même une grosse évolution. On va avoir le besoin des scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on observe, un bruit bizarre, qu'est-ce que c'est ce bruit, qu'est-ce que c'est, est-ce que juste un bloc qui bouge un peu, c'est important ou pas important, la taille du bloc. Et là, il va être important d'avoir, entre guillemets, le complément des scientifiques pour essayer de nous expliquer le phénomène.
Le réseau d'observation, il a été construit dans le massif du Mont-Blanc en 2005. Il s'avère véritablement opérationnel que depuis 2007, parce qu'évidemment, il a fallu du temps. Et aujourd'hui, ce réseau, il s'est élargi finalement à tous les alpinistes intéressés par ces questions-là. Et actuellement, on est en train de travailler avec d'autres partenaires, le Syndicat national des guides de montagne, le Pôle alpin des risques naturels, à construire un projet, cette fois-ci à l'échelle des Alpes françaises, de manière à ne pas se concentrer sur un seul massif comme le massif du Mont-Blanc, même s'il est tout à fait emblématique, et avoir justement ce réseau d'observation constitué de guides, de gardiens de refuge, d'accompagnateurs, de gardes de réserves naturelles, de parcs nationaux, etc., pour avoir ce réseau le plus opérationnel et le plus large possible sur les déstabilisations rocheuses, mais également les déstabilisations glaciaires, les laves torrentielles, etc., tout ce qui peut poser des problèmes de sécurité en montagne.
Les lacs glaciaires, typiquement, hein, comme celui des Bossons, c'est au départ les guides qui ont dit « Tiens, c'est sympa, il y a un lac. » Oui, c'est sympa, il y a un lac, mais on voit qu'un lac à la Bérarde, c'était moins sympa. Donc, effectivement, d'arriver à analyser ces situations, c'est extrêmement important. Et que, pour une fois, alors est-ce qu'on peut dire pour une fois, mais les moyens modernes de communication permettent d'avoir des retours quasi instantanés, c'est-à-dire qu'il suffit d'être inscrit sur ce réseau, de faire passer une info, les scientifiques l'ont quasiment en temps réel. Et ça, c'est un vrai, alors on peut dire que c'est un vrai progrès de l'évolution de ces moyens de communication. S'il y a une époque qu'il fallait appeler Ludo, je l'appelais, mais il n'était pas là, je lui ai laissé un message, je lui ai pas laissé de message, il l'a pris une semaine après, là c'est quasi instantané, effectivement. Les guides, entre autres, et les alpinistes également, ont bien pris l'habitude, lorsqu'ils constatent un phénomène, de le partager. Enfin, je pense que des partages, tu en as très régulièrement sur l'été.
Tout à fait, on a maintenant plus de 1800 événements qui ont été documentés, rien que dans le massif du Mont-Blanc, donc c'est une base de données très intéressante pour nous. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était sur des fiches papier en 2005, et heureusement que ça a avancé. Ça permet un transfert des informations beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et en termes de sécurité, c'est quelque chose de très positif aussi.
Et comment vous fonctionnez d'ailleurs pour ce réseau d'observation? Vous avez un tableau à renseigner ou c'est quoi le concrètement les informations qu'il diffuse?
Initialement, c'était quelques informations sur papier. Après, on a développé une première application qui s'appelait AlpeRisque, une deuxième application qui s'appelle OpsAlp. Et donc, le projet actuellement, c'est un projet à l'échelle des Alpes françaises qui s'appelle Regard d'altitude et qui a vocation, à travers une nouvelle application, de permettre à tout un chacun, et en particulier aux professionnels, de renseigner les événements avec différents niveaux de lecture, je dirais. Disons une lecture rapide sur le terrain, quelques informations de localisation, une photo, etc. Parfois, ça nous suffit pour ensuite rajouter des données. Et puis, il y a un deuxième niveau de lecture, un deuxième niveau d'information avec les observateurs les plus efficaces, les plus aguerris, en particulier les guides, sur une estimation du volume, sur quelques observations plus détaillées du phénomène, de manière à renseigner encore mieux les scientifiques. Et puis après, il y a une interopérabilité de manière à ce que les guides eux-mêmes soient informés de ces observations. C'est du gagnant-gagnant pour eux aussi assurer leur sécurité. C'est comme l'hiver, les avalanches. Quand on voit qu'il y a de plus en plus d'événements dans un secteur, on va être peut-être beaucoup plus attentif.
Plus vigilant, ne pas y aller ou y aller en connaissance de cause.
Et qu'effectivement, on a besoin de ces informations sur une course qu'on n'a pas pratiquée depuis longtemps, ou même depuis quelques semaines, d'avoir une idée si un événement s'est passé et qu'on n'était pas là. C'est intéressant également d'avoir ce retour-là. Alors, quelquefois, on l'a juste entre collègues, mais quelquefois, c'est plus compliqué.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Vous écoutez toujours Aura des pâquerettes, une émission spéciale menée par Globule Radio et diffusée sur les antennes des autres radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes. On vous rappelle que Globule Radio est la radio associative de la vallée de Chamonix. Chamonix, c'est le berceau de l'alpinisme et de la compagnie des guides. Dans cette émission, on aborde le changement climatique avec le sujet des éboulements en montagne. Avec nous pour en parler, Ludovic Ravanel, géomorphologue, et Olivier Grébert, président de la compagnie des guides. On parle justement de prévention des risques. La semaine dernière, la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, Agnès Pannier-Runacher, était à Chamonix pour annoncer le PAPROG, le plan d'action interministériel sur les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Je propose qu'on écoute la ministre Agnès Pannier-Runacher qui présente les quatre axes de ce plan.
Aujourd'hui, j'annonce un plan national sur les glaciers et les zones périglaciaires qui va complètement dans le sens de cette adaptation au changement climatique. De quoi est-il question ? D'abord, de mieux connaître les phénomènes en cause, parce que sur les glaciers, on a peu d'éléments scientifiques encore. On y travaille depuis 20 ans, il y a beaucoup de capteurs. Chamonix est évidemment un pôle d'excellence en la matière, mais on n'est pas sûr de bien tout savoir et on doit absolument renforcer notre connaissance scientifique. Deuxième élément, c'est passer de l'amélioration de notre connaissance scientifique à des choses très opérationnelles. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'il y a un risque torrentiel, comment on s'en protège ? Est-ce qu'il faut construire des protections ? Est-ce qu'il faut au contraire mettre des périmètres de protection pour que les gens ne s'approchent plus de l'endroit, mettre des filets, aller clouter ? Enfin, c'est très opérationnel. Et il faut évidemment nourrir tous les aménageurs, tous les opérateurs de la montagne de ces retours d'expérience. Et puis, troisième enjeu, c'est accompagner les collectivités locales dans le fait elles-mêmes de se projeter à 2050, à 2100 et savoir comment on transforme les usages de la montagne. Tout le monde a compris qu'on ne va plus pouvoir skier partout, mais que peut-être on a des opportunités de développer une autre forme de tourisme qui sera très appréciée, très désirable, très recherchée. Donc, comment on le fait ? Quel type de bâti pour le faire ? Quel type de transport pour le faire ? C'est tout l'enjeu de la suite, de l'avenir du plan montagne. Enfin, dernier enjeu, la culture du risque. Ça, c'est très concret. C'est chez tout le monde, les opérateurs, évidemment, les services de l'État, les services de secours, mais également les visiteurs, les touristes et le grand public, s'approprier à ces nouveaux risques et faire en sorte de jamais ne se mettre en danger.
Voilà, donc c'est les annonces de Agnès Pannier-Runacher. Moi, j'aimerais connaître vos retours par rapport à ces annonces. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors cette annonce, elle a surtout un intérêt en termes de communication parce que finalement, le grand public n'est pas forcément au courant de ce PAPROG, plan d'action contre les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement ancien. En tout cas, nous, on travaille dessus depuis déjà une dizaine d'années. Les premiers travaux datent de 2012-2013 et il a fallu près d'une décennie pour formaliser, matérialiser précisément ce plan qui aujourd'hui a déjà des effets puisque ça permet d'avoir des financements pour la recherche et ça permet également de mettre en cohérence les chercheurs avec les gestionnaires du risque de manière à mieux anticiper et mieux gérer les phénomènes glaciaires et périglaciaires. Quand on parle de périglaciaires, c'est ce qui est autour des glaciers et généralement c'est associé au permafrost.
Alors les guides sont entre guillemets concernés également, mais un peu moins dans le sens où nous avons une approche souvent un peu plus empirique de la chose, c'est-à-dire que les phénomènes qui nous concernent peuvent être des phénomènes de beaucoup moins grande ampleur que des phénomènes qui intéressent entre guillemets les services étatiques de façon à protéger un village, une route. Voilà, quand on en est là, pour les guides, c'est déjà, on va dire, chaud bouillant.
Et Olivier, Olivier Grébert, tu es guide depuis 1989.
Bravo.
C'est ça, hein. Et tu es aujourd'hui donc le président de la compagnie.
Absolument.
Là, j'ai pas la date. Depuis quand, d'ailleurs ?
Depuis 6 ans.
Depuis 6 ans.
2019, mon élection. Voilà, c'est mon deuxième mandat. Enfin, j'arrive à la fin de mon deuxième mandat.
Et donc, tes mandats en tant que président de la compagnie ont été largement impactés par le changement climatique. La compagnie réfléchit à ce grand sujet en faisant le bilan carboné de la compagnie et différentes actions. Vous avez publié, par exemple, un livret de sensibilisation au changement climatique pour les 200 ans de la compagnie. Les guides de montagne et le changement climatique, une histoire d'adaptation. Dans ce livret, on comprend qu'en 200 ans d'existence, la compagnie a vu se succéder de profonds changements dans le paysage, la poussant toujours à une adaptation perpétuelle, qui fait partie de votre métier finalement. Aujourd'hui, l'accélération du réchauffement climatique constitue un défi d'adaptation sans précédent pour votre métier de guide, puisque les changements sont rapides. Ludovic en parlait tout à l'heure. C'est vrai que sur les deux, trois dernières années, ça s'est quand même largement
accéléré. Absolument.
Accéléré. Explique-nous le métier, les objectifs du métier de guide d'il y a. Est-ce que c'est différent?
On a un petit peu de temps.
Hein. Oui, il nous reste encore un peu
donc,
de temps.
Donc, on peut dire que le métier de guide n'a pas beaucoup changé depuis ses origines. Le métier de guide est toujours le fait d'accompagner des gens en montagne pour prendre du plaisir. L'objectif n'est pas d'aller prendre des risques et de dire « j'ai survécu ». L'objectif est de composer avec les aléas de la montagne. La société actuelle a de plus en plus de mal à, on va dire, à gérer les imprévus. On voudrait que tout soit prévu, mais on voudrait quand même vivre l'aventure. Mais l'aventure, pas trop. Voilà. Donc, le rôle du guide va essayer de composer avec l'ensemble de ces aléas. Et c'est vrai que jusque dans les années 90, quelque part, enfin, pour avoir exercé le métier, 90, 91, jusqu'à début 2000, on se posait pas trop de questions. Le changement était pas tellement visible. Enfin, il y avait pas. Là, l'accélération a fait que j'ai passé l'examen d'aspirant guide sur le glacier des Bossons. L'endroit où j'ai passé l'examen.
Il y avait une école de glace à l'époque.
Il y avait une école de glace. On montait faire de l'école de glace avec nos clients sur le bas du glacier des Bossons. Ben, maintenant, c'est des cailloux et des dalles rocheuses. Voilà, on ne peut plus aller sur le glacier des Bossons. L'accès à la mer de glace, c'est un peu l'endroit un peu le plus emblématique et le plus visible de ce changement, où la baisse est vraiment significative. Donc l'évolution, à ce niveau-là, on a été obligé de s'adapter. Mais comme le métier a toujours été obligé de s'adapter, quand le train du Mont-en-Mer est arrivé et qu'une grosse partie des guides dépendait de monter avec les mulets jusqu'à la mer de glace, on a cru que c'était la mort du métier. Le métier s'est adapté à ce changement, qui a été un changement à l'époque radical également. Donc l'adaptation est vraiment notre cœur de métier. Dans cet objectif-là, il y a une grosse adaptation de la saisonnalité, à savoir que entre l'hiver et le printemps, on le voit les alpinistes, hein, les alpinistes un peu pointus, la face nord des Grandes Jorasses s'est pratiquée il y a 3 semaines. On aurait dit ça ne serait-ce qu'il y a 8 ou 10 ans. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Ludo, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. On fait une hivernale alors qu'on est encore quasiment en automne. De la même façon, au mois de mai, enfin, toutes les grands itinéraires, les grands couloirs de neige, le Whymper, à la verte, le Couturier, vont se pratiquer plutôt au mois de mai sur une fin d'hiver. Avec quoi qu'on en dise, même si les épisodes sont de plus en plus, on va dire, il y a des périodes de réchauffement suivies d'une période de grand froid, du réchauffement, du vent, donc sont beaucoup plus aléatoires. Malgré tout, la montagne se pratique de plus en plus tôt. Il y a plus d'intersaison entre l'hiver et l'été.
Mais du coup, c'est peut-être plus difficile aussi maintenant de lire. À quelles conditions on peut aller en montagne.
Absolument.
De lire vraiment avec
Absolument.
Ce réchauffement climatique, on est un peu perdu. Quoi. Enfin,
le guide a de plus en plus besoin de s'adapter, de trouver un plan B. Alors, nous avons la chance d'avoir un métier dont les prérogatives sont assez larges, puisque ça va de la rando glaciaire à l'escalade, mais que ce sont des prérogatives qui nous permettent de vivre de notre métier à l'année. Il y a également un peu d'inquiétude par rapport à ça, dans le sens où quelquefois de nouvelles professions apparaissent qui ont un peu moins de qualifications, mais qui viennent grignoter un petit peu ces prérogatives. Est-ce que des moniteurs de Via Ferrata, des choses comme ça, qui sont quelquefois problématiques pour nous, puisque les quelques journées qu'on va faire en Via Ferrata ou dans les Aiguilles Rouges vont nous permettre de vivre de notre métier à l'année.
On parle d'adaptation, on parlait tout à l'heure de l'été 2003. Est-ce que l'été 2003, c'est le premier choc qui fait une prise de conscience auprès de la compagnie des guides?
Alors 2003, à l'époque, je, je faisais partie des guides allant en montagne. À ce moment-là, voilà, on a pris conscience qu'il y avait effectivement des événements majeurs en montagne et qu'on s'est un peu rabattu, entre guillemets, sur les Aiguilles Rouges, voilà, puisqu'à Chamonix, on a la chance d'avoir deux massifs très différents, très proches l'un de l'autre, et qu'effectivement, la haute montagne étant moins praticable, on s'est rabattu sur les Aiguilles Rouges, qu'on pensait être moins impacté, mais que finalement, la suite des événements nous montre que non, ça n'est pas totalement non plus dépourvu d'effet sur les Aiguilles Rouges. Mais effectivement, oui, on peut dire que 2003 a été un peu un électrochoc dans la profession.
Et ça a été le cas aussi du point de vue scientifique. Hein. Cet été 2003 a été l'occasion pour nous d'une prise de conscience au niveau des glaciers, au niveau du permafrost, au niveau de tout ce qui se passe en montagne. Ça a été un vrai premier coup d'accélérateur, comme on le disait tout à l'heure.
Oui, parce qu'on comprend qu'il y a un vrai impact de ce réchauffement climatique sur les activités proposées, sur la saisonnalité, sur les nouveaux lieux à trouver, mais finalement aussi sur votre sécurité et la sécurité de vos clients, puisque c'est aussi la prérogative du guide, c'est d'assurer la sécurité de ses clients. Donc est-ce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller? Est-ce que ça modifie ça, la prise de risque en fait?
Bien entendu. Alors encore une fois, hein, on revient, on ne va pas en montagne pour prendre des risques, hein, on va en montagne pour composer avec les aléas, et que la composition avec les aléas peut être de dire je ne vais plus à cet endroit-là, je ne vais plus à cet endroit-là à cette période de l'année ou à cette période de la journée. Donc on va effectivement essayer de composer le mieux possible avec les connaissances que nous apportent également les scientifiques. Hein. Il faut pas, voilà, nos collègues bien sûr disant tiens j'ai observé ci, j'ai observé ça, mais peut-être de compléter avec une vision plus large des choses. Mais oui, bien sûr, il y a des itinéraires qui se pratiquent l'hiver, qui ne se pratiquent plus l'été, qui se pratiquent en début d'été où on attend une nouvelle chute de neige ou un refroidissement pour pratiquer. Bien sûr, de façon le plus emblématique là encore est la voie normale de la Tour Ronde. La voie normale de la Tour Ronde, alors ça fait un peu, je suis jeune depuis plus longtemps plutôt, mais c'était une course classique d'initiation en neige, il n'y a pas si longtemps, et en l'espace d'une génération, puisque maintenant la voie normale de la Tour Ronde ne se pratique plus l'été, c'est devenu un éboulis. Donc là, il y a un vrai changement, elle se pratique encore un peu l'hiver, parce qu'effectivement, l'hiver, l'enneigement, on est suffisamment haut pour que l'enneigement puisse nous protéger de ce risque-là. Mais en été, dès le tout début de l'été, dès le mois de juin, quelquefois, elle est impraticable.
Et le Mont Blanc? Le Mont Blanc, parce que j'ai vu aussi une vidéo, le Mont Blanc par la voie du Goûter, du couloir du Goûter. J'ai vu cet hiver aussi une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où on voit. C'est effrayant.
Le Mont Blanc cristallise un petit peu les. On va dire les observations, puisque ça reste une des voies les plus fréquentées, même si la fréquentation, grosso modo, depuis l'époque où je faisais le Mont Blanc, où je faisais encore le Mont Blanc, hein, j'ai dû faire le dernier en 2019, mais avant ça, le Mont Blanc était bien plus fréquenté qu'actuellement. La fréquentation a été grosso modo divisée par deux, à la fois sur le fait que l'ascension se fait maintenant le plus souvent en 3 jours, C'est-à-dire que le premier jour, on monte au refuge de Tétrousse, de façon à pouvoir franchir le couloir du goûter plutôt que si on part du train le matin. Donc on va pouvoir franchir le couloir, on va dire, entre 5 et 8 heures du matin. On va jusqu'au sommet, ça ne facilite pas les choses, attention, hein, puisque le deuxième jour, Tétrousse, sommet du Mont Blanc, retour au refuge du goûter, fait une journée copieuse. Mais ça permet de franchir les zones les plus aléatoires, on va dire, à des horaires qui potentiellement, encore que ça ne soit pas toujours, enfin voilà, qu'il n'y a pas de règles mathématiques, mais a priori de franchir le couloir à des horaires, on va dire, plus fréquentables.
Et ça, on a pu le montrer aussi du point de vue scientifique en mettant en place une instrumentation dans le couloir du goûter, que les modalités d'adaptation dont parle Olivier, c'est effectivement ce vers quoi il faut aller. Le Mont Blanc en deux jours, c'est au niveau sécu, c'est pas bon. Maintenant, c'est en trois jours. Ça fait partie justement des modalités d'adaptation que mettent en place les guides. Et de ce point de vue-là, le métier de guide est finalement plus important et plus intéressant encore que par le passé, puisque il y a quelques décennies, quand on gérait le risque de chute en crevasse et le risque d'avalanche, on avait fait le job. Maintenant, il y a beaucoup plus de processus auxquels on est confronté, ce qui en fait un diplôme encore plus important, encore plus intéressant que par le passé.
Parce que du coup, ça impacte aussi le diplôme de guide. Le diplôme de guide, pour l'obtenir, il y a eu des modifications.
Alors, ont été intégrés dans la formation, Ludo intervient dans le cadre de la formation, justement, à la fois sur l'importance pour les jeunes qui arrivent dans le métier de faire des retours, et sur l'évolution de ces conditions. On va dire que je n'ai pas du tout la même vision de ce que peuvent être des bonnes conditions qu'un jeune qui vient d'arriver dans le métier il y a 3 ans ou 5 ans. Parce que, on va dire, notre référentiel est, sur ce que sont des bonnes conditions est un peu différent que pour nous, même si on est assez flexible, de s'adapter à ça. Quelquefois, on a, on va dire, plus de mal qu'un jeune guide qui arrive. Quand on lui dit, bah non, là, c'est plus bon. Et là, il dit, oh, bah non, il y avait juste une zone de gravier. Bah, nous, quand il y avait une zone de gravier dans un couloir, c'était fini, quoi. Hein. Et là, il dit, oh non, mais il y a juste une petite zone de gravier. On n'a pas toujours, enfin voilà, et donc cette difficulté à adapter le référentiel, c'est là que les scientifiques sont, je pense, primordiaux.
À travers la thèse de Jacques Mouret, il y a quelques années, on a justement montré, avec une enquête auprès du Syndicat national des guides de montagne, qu'il y avait deux types de guides. Les guides plutôt d'un certain âge, qui étaient très ancrés sur la pratique traditionnelle, l'alpinisme traditionnel au cœur de l'été, eh bien eux, évidemment, ont beaucoup plus de mal à s'adapter que les guides plus jeunes, qui sont nés avec le réchauffement climatique et qui sont nés donc avec des conditions déjà très dégradées. Et ça, c'est ce que vient d'expliquer Olivier. Et c'est très très prégnant, hein, deux catégories. Avec une catégorie finalement de gens aussi qui commencent à arriver à l'âge de la retraite, qui sont remplacés par des plus jeunes qui, eux, arrivent davantage à s'adapter par rapport aussi à la multiplicité des activités prévues par le diplôme.
Ouais. Et c'est assez fascinant de voir cette faculté d'adaptation de ce métier qui il y a 200 ans.
C'est le cœur de notre métier. On s'adapte au jour le jour, on s'adapte... même avec un client qu'on connaît, puisqu'il y a quelques clients qu'on connaît, si Ludo peut parler des clients de son papa, il y a des clients qu'il a fréquenté pendant 25 ou 30 ans, et que même avec des clients qu'on connaît, dont on connaît les capacités, l'échange du matin en allant à la benne, en montant en benne, sur comment il a passé sa nuit, comment il se sent, est-ce qu'en ce moment il travaille beaucoup, il travaille pas beaucoup, ça peut paraître être des paramètres insignifiants, ces quelques minutes de discussion, qui pour le commun des mortels peuvent être insignifiants. En fait, pour nous, c'est plein d'informations. T'as l'air fatigué, t'as mal dormi, t'as déjeuné, t'as pas déjeuné, et en fonction de ça aussi, on va s'adapter. Donc l'adaptation est vraiment dans notre métier.
Dans votre ADN.
Dans notre ADN, c'est une attention, on va dire, de tous les instants.
On a identifié 33 modalités d'adaptation, des guides par rapport au changement climatique. Et il y a globalement 5 grandes familles. Le changement de saisonnalité dont on a déjà parlé, avec moins d'alpinisme au cœur de l'été, plus le printemps, voire même carrément l'hiver. Les hivers étant de moins en moins rigoureux, c'est favorable. Plus de mobilité également, avec quand les conditions ne sont plus bonnes dans le massif des Écrins, on va venir dans le massif du Mont-Blanc ou dans le Valais en Suisse, l'Oberland bernois, etc. Plus de réactivité aux bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on peut encore avoir de très bonnes conditions, mais généralement sur des périodes beaucoup plus courtes. On peut avoir aussi des adaptations techniques. On parlait du Mont-Blanc, bah avant c'était avec 2-3 clients, maintenant c'est avec un seul client pour pouvoir assurer la sécurité. Donc tout un tas d'éléments qui permettent aux guides de continuer d'assurer la sécurité, même si la haute montagne a des conditions plus difficiles. Et on voit que ça marche, puisque sur des étés catastrophiques comme 2022, l'accidentalité en haute montagne n'explose pas. Ça veut dire que les guides délaissent certains secteurs au profit d'autres secteurs. Et quand les alpinistes voient que les guides n'y vont plus, ils sont assez malins et ils n'y vont plus non plus.
Bah, je crois qu'on va clôturer sur cette note. Merci à tous les deux, Ludovic Ravanel et Olivier Gréber, d'être venus.
Merci à vous. Merci à
d'être venus au micro de Globule Radio. Merci à Lorraine.
Merci beaucoup.
On est ravis d'avoir pu mener cette émission au sujet de ce sujet important qu'est le réchauffement climatique, les éboulements. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, sur le site globule.chamonix.radio ou bien sûr sur le site de Aura FM, sur le site aurafm.org.
Merci.
Merci et on écoute tout de suite Jean-Franck Charlet avec sa casquette de cristallier qui va nous parler également de est-ce que ce réchauffement climatique est bénéfique à la recherche de cristaux.
Au niveau des cristalliers, ce réchauffement climatique qui fait qu'il y a cette fonte du permafrost et des effondrements de partout, on a les mêmes problématiques que tous les alpinistes. Il n'y a rien de différent par rapport, puisqu'on fait de l'alpinisme, donc on est en haute montagne, on a les mêmes données.
Et
les mêmes problèmes, c'est-à-dire que on va pas dans les mêmes endroits, on fait attention, il y a beaucoup plus de chutes de pierres, etc. Alors, à cela près que, quand on est cristallier aujourd'hui, le fait qu'il y a cette déglaciation de la montagne, ça libère énormément de roches qui étaient sous la glace jusqu'à présent. Ça, c'est soit sur le bord des glaciers, avec 10 mètres de fonte d'épaisseur de glacier chaque année. Donc, tout le long des glaciers, sur les bords, il y a 10 mètres de rochers qui étaient sous la glace depuis toujours et qui sont pour la première fois dégagés. Et ça peut libérer potentiellement des nouveaux fours de cristaux qui n'ont jamais été grattés jusque-là puisqu'ils étaient sous la glace. Alors ça, c'est le long des glaciers. Ensuite, dans les grandes parois, si vous prenez par exemple la face nord des Courtes, c'était une grande paroi de glace il y a encore 30 ans. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une paroi de rocher. C'est-à-dire que toute la glace a fondu complètement et ça libère donc des zones où potentiellement on peut retrouver des cristaux. Les cristaux, ça se trouve bien sûr dans les rochers et que jusque-là, les rochers étaient enneigés, donc les fours n'étaient pas visibles. Et donc, dans ce contexte, et en plus, le fait du réchauffement climatique, c'est que les fours de cristaux, qui sont des fissures en haute montagne où on trouve les cristaux à l'intérieur, généralement, en haute montagne, ils étaient gelés, ces fours. Donc, avec de la glace à l'intérieur, et là, il y a de moins en moins de glace, et donc, il est de plus en plus facile de récupérer les cristaux. Alors, ce contexte-là, qui est extrêmement favorable à la recherche des cristaux aujourd'hui, puisqu'on peut trouver facilement des endroits nouveaux, de nouvelles cavités, eh bien, ça peut pousser effectivement les gens à aller un peu plus aux cristaux. Et donc pas facilement de les amener à prendre peut-être un peu plus de risques par rapport aux chutes de pierre qui sont bien présentes.
Quand vous dites que ça peut amener de plus en plus de gens à s'intéresser à aller à la recherche de cristaux, donc
Parce qu'on en trouve on sait qu'on en trouve de plus en plus facilement dans des zones d'accès facile le long des glaciers, donc des endroits tout simples à aller sans vraiment grimper. Et ça, sur le massif du Mont Blanc, c'est extrêmement visible partout. Prenez le glacier du Tour, il y a des éperons rocheux qui étaient sous la glace encore il y a 30 ans et qui maintenant font une trentaine de mètres de haut sur plusieurs kilomètres de long et 200-300 mètres de large. Enfin, c'est des territoires incroyables qui sont sortis de la glace nouvellement. Et donc ça, très facile d'accès, donc ça encourage d'autant plus, ça met d'autant plus de monde, pas forcément des grands alpinistes, à aller dans ces endroits-là. Ces endroits-là sont forcément au pied plus ou moins de parois où il peut y avoir des chutes de pierre et des effondrements. Donc voilà. Donc il faut. On est. Le changement climatique fait que ça peut encourager d'autant plus les gens à aller chercher des cristaux qu'on peut en trouver dans les endroits de plus en plus faciles, etc. Mais en même temps, le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus de chutes de pierre en haute montagne et qu'il faut être extrêmement vigilant avec tout ça.
Oui, donc il y a une ambivalence de.
C'est une erreur à suivre, etc. Oui.
Oui, il y a une ambivalence de. À la fois, ça permet d'avoir de nouveaux lieux, de nouveaux cristaux qu'on peut aller chercher.
Mais voilà, donc ça vous encourage à aller en montagne, ça vous encourage à aller les chercher, parce que vous savez que vous allez en trouver plus facilement, parce qu'il y a plein de nouveaux endroits qui viennent de se découvrir. Et ça, c'est un petit peu dangereux dans la mesure où. La montagne, elle, par ailleurs, pour les mêmes raisons, il y a de plus en plus de chutes de pierres.
Et du coup, il faut aussi faire extrêmement attention.
Extrêmement attention. Et extrêmement attention, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, parce que les effondrements, les chutes de pierres sont dans des endroits où on n'est pas forcément coutume de les voir, puisque c'est même dans des parois plutôt raides et verticales où le rocher paraît bon. Et en fait, c'est des parties de bons rochers qui s'effondrent parce que c'est tenu dans la glace jusque maintenant. La glace fond et les rochers se détachent. Donc, on a en même temps des chutes de pierre à des endroits. Donc c'est un peu quand même au petit bonheur la chance à ce niveau-là de savoir que la montagne est de plus en plus dangereuse et que les endroits où elle est dangereuse, ce n'est plus vraiment les mêmes que ça l'était avant. Avant, on évitait les couloirs, les endroits classiques de chute de pierre. Aujourd'hui, les chutes de pierre, des endroits où on n'en avait jamais vu, du fait de ce réchauffement climatique.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà. Sur les cristaux, c'est tout ce qu'on peut dire.
Hein. Oui, mais c'est parfait. Je voulais. C'était pas pour faire une parenthèse très longue,
mais oui.
Je trouvais intéressant d'en parler aussi de cet aspect-là, parce que plus de gens peuvent être amenés à aller chercher des cristaux en haute montagne. Voilà. Moi, c'était mes seules questions.
On a vraiment des découvertes exceptionnelles ces dernières années, du coup.
Oui,
Il y a plein d'endroits relativement faciles d'accès où il y a des très très belles choses qui ont été découvertes. Parce que c'est énorme, je ne sais pas sur le massif du Mont Blanc ce qu'on peut dire. Peut-être qu'il y a presque deux fois plus de rochers découverts en plein été aujourd'hui que ça n'était il y a 50 ans. Okay. La masse rocheuse est absolument colossale à plein d'endroits, hein. Le glacier de Talef, vous prenez, il est coupé en deux, en trois, il y a énormément de rochers au milieu, ce qui n'existait pas, et donc ça fait d'autant plus de zones où on peut trouver facilement des cristaux. Ça encourage les gens à partir là-haut, les chercher, et en même temps, ils se retrouvent à des endroits où, effectivement, les chutes de pierre sont toujours présentes. C'est le risque de chute de pierre, hein, essentiellement. Et après, les chutes de pierre, c'est après, quand on grimpe, il y a beaucoup de rochers qui étaient tenus dans la glace avant, qui maintenant sont très délités. Et donc, il y a plein d'endroits en haute montagne où les arêtes, notamment rocheuses, sont extrêmement délitées, qui étaient tenues avant par la glace et qui n'est plus aujourd'hui, qui fait que parcourir ces endroits-là, c'est devenu de plus en plus dangereux. Et on y va d'ailleurs de moins en moins. Les alpinistes essayent de trouver autre chose à faire, aller dans les endroits où le rocher est encore solide, où il y a peu de chutes de pierre. Alors, heureusement, il y a encore beaucoup d'endroits comme ça. Ou de marcher sur les glaciers, loin des parois, loin des chutes de pierre, ou de trouver des courses qui ne sont pas exposées à ces chutes de pierre. Mais voilà.
Merci Jean-Franck Charlet. Cristallis dans la vallée du Mont-Blanc, merci à nos invités de la première partie, Ludovic Ravanel et Olivier Grébert. C'était l'équipe de Globule, au micro Jessica Compois et Lorraine Roche, et à l'enregistrement de cette émission, Kirstine Mackenzie. Si vous vous intéressez au milieu de la montagne, on vous invite à découvrir Chamonix via nos podcasts tels que Learn from Altitude avec Blaise Agresti, ancien commandant du PGHM, Montagne et compagnie, produit avec la Compagnie des guides de Chamonix, Celle d'en haut, un podcast qui va à la rencontre des femmes qui pratiquent la montagne aujourd'hui.
Globule Radio, 90.5 FM, inventé pour la vallée.
Merci à Aura FM pour cette initiative collective. Vous pouvez retrouver cette émission sur leur site aurafm.org et sur le site de Globule Radio, globule.chamonix.radio.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.